C'est l'un des sites archéologiques les plus connus au monde, Machu Picchu, sommet de la civilisation Inca. Les civilisations andines ont 5000 ans d'histoire. Une exposition événement à partir de demain en présente environ 3000 ans à la Cité de l'Architecture à Paris. Machu Picchu et les trésors du Pérou. Collection exceptionnelle de pièces, céramiques dans un état de conservation impressionnant, parures en or et en argent, vêtements, textiles. Le talent, la passion, les connaissances des scientifiques les font parler pour nous dévoiler une façon de voir le monde. L'exposition fait la part belle aussi aux nouvelles technologies, la vidéo, l'animation, la réalité virtuelle pour nous plonger dans ce monde et le raconter. On y découvre une recherche permanente de l'équilibre dans ces civilisations, ce qui résonne dans le contexte actuel. Machu Picchu et les trésors du Pérou, 01 45 24 7000, l'appli France Inter pour vos questions. Peut-être êtes-vous allé sur le Machu Picchu, racontez-nous. Avec nous jusqu'à 13h45, l'une des commissaires de cette exposition. Bonjour Carole Fraresso.
Bonjour.
Merci d'être dans les studios de France Inter. La première fois que vous êtes allé sur ce site, quand j'ai visité, vous m'avez dit que vous y étiez allé 8 fois. La première fois, quel souvenir ?
La première fois que je suis allée sur le site, j'étais étudiante, je démarrais mon doctorat, donc j'étais jeune. Je suis montée au Machu Picchu à pied, je me suis levée à 3h du matin, j'ai escaladé par la montagne, par les marches, pour arriver jusqu'à l'entrée du site. Et évidemment, le site n'était pas visité comme il l'est aujourd'hui, donc il y avait une personne avec une petite caisse en métal.
Vous l'aviez pour vous quasiment.
J'ai eu le Machu Picchu, il m'a laissé rentrer, c'était pas l'heure d'ouverture, et donc j'en garde un souvenir absolument incroyable.
Eh bien, nous avons quelqu'un au bout du fil qui est également allé au Machu Picchu. Bonjour Anne.
Bonjour.
C'était il y a une dizaine d'années. Quel souvenir ?
Oh ben, c'est extraordinaire. Alors, bonjour à tous les auditeurs également. Merci de prendre mon témoignage. Alors, nous y sommes allés il y a 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus très bien, avec mon époux. Et contrairement à certains sites, vous savez, où on voit des reportages, où on lit des récits, on a quelquefois, quand on arrive, on n'a pas l'impression on n'a pas l'impression de découvrir quelque chose. Hein. Voilà. Alors, tandis que là, c'était absolument extraordinaire. Vos yeux ne sont pas assez grands parce que c'est tellement vaste. Alors, comme disait la dame précédemment, effectivement, on monte et on descend énormément de marches. Donc, effectivement, faut être en forme physique. Mais alors, on se dit que cette civilisation avait une telle avance. Quand on voit l'organisation du site, la qualité de la construction, parce que ben c'est encore toujours debout et en bon état, quoi. Hein. Alors, je dis aux gens, ceux qui peuvent et qui physiquement peuvent aller voir le Machu Picchu. Là, on n'a pas l'impression d'avoir découvert à travers des reportages. C'est absolument extraordinaire.
C'est bien noté. Merci beaucoup de votre appel, Anne. Carole Fraresso, qu'est-ce qu'il représente pour la civilisation Inca, ce site du Machu Picchu ?
Alors, le site de Machu Picchu, c'est une citadelle, hein, une citadelle perchée au sommet d'une montagne. On est quand même à 2430 mètres d'altitude. Ouais. Donc, le choix de ce lieu n'est pas anodin. On est au sommet d'une montagne, d'une divinité tutélaire. Et en fait, la topographie du site permet de construire cette citadelle. On a plus de 200 édifices en pierre de granit construites, et on est entouré par les montagnes, c'est-à-dire les autres divinités tutélaires, et on est totalement en osmose en fait avec l'environnement.
Alors l'environnement, c'est intéressant parce que l'exposition met notamment en valeur la faune et la flore qui est importante.
Exactement. Ben, nous, lorsqu'on parle des sociétés de l'ancien Pérou, on parle aussi de sociétés agricoles.
Oui.
Et donc, ce sont des sociétés qui dépendent fondamentalement de la nature et des éléments qui les entourent.
Alors, cet empire Inca, qui est une des civilisations évoquées dans cette exposition, il a eu une histoire fulgurante. Il a duré, quoi, moins de 100 ans ?
Un siècle, 150 ans.
Oui.
Ça a été bref et à la fois fulgurant, puisqu'on parle d'un développement culturel de 5000 ans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Incas étaient des militaires, étaient des conquérants, et c'était aussi des gestionnaires et de très bons administrateurs.
Alors, les civilisations andines, elles, ont duré beaucoup plus longtemps. 5000 ans, vous racontez 3000 ans dans l'exposition. Quand on parle de civilisation andine, de quoi parle-t-on au-delà du mot Inca qui est connu pour tout le monde? De quelle civilisation parle-t-on?
Il y a différentes sociétés qui se sont développées au Pérou. Des sociétés qui se sont succédées, qui ont cohabité. Donc, on démarre avec la période formative vers 1250 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, donc en 1532, lorsque les Incas sont... L'Empire Inca s'étend en fait sur tout le vaste territoire, sur plus de 900 000 km². Ces sociétés, elles vont se sédentariser, elles vont se construire en tant que communauté, elles vont se développer comme des États, elles vont développer l'artisanat, elles vont développer l'agriculture, elles vont développer des systèmes hydrauliques ingénieux pour venir puiser l'eau en fait, récupérer l'eau qui arrive des sommets de la cordillère des Andes pour les amener jusqu'au à la côte désertique du Pérou. Elles vont aussi aller puiser l'eau, les Nazca par exemple, qui vivent au sud du Pérou, ils vivent dans un désert, des déserts les plus arides au monde. Et pourtant, ils arrivent à développer des systèmes de puits profonds en forme de spirale empierrée pour aller puiser cette eau de la nappe phréatique pour pouvoir survivre en fait dans ces territoires hostiles.
Alors allons-y pour l'exposition. Je voudrais commencer par deux pièces qui sont au tout début. D'abord un étendard. Alors il se trouve symboliquement qu'il est aux couleurs de l'Ukraine, mais vous l'avez pas choisi pour cette raison-là, même si c'est un heureux hasard. Bleu et jaune qui incarne ce qui revient très souvent dans ces civilisations, la dualité.
Oui, la dualité andine est fortement ancrée au Pérou et aujourd'hui encore. C'est une notion qui parle aux Péruviens. Donc la dualité, en fait, elle s'explique par la rencontre de ces forces opposées qui vont se compléter et elles doivent se rencontrer pour créer quelque chose de nouveau, ce que l'on appelle en langue quechua le tinkui. Et le tinkui, par exemple, peut se manifester par la rencontre, l'accouplement d'un homme et d'une femme. On a deux opposés qui se rencontrent et qui vont générer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la vie, un enfant.
Et il y a un magnifique bol cérémoniel, deux feuilles de métal, une en or, une en argent, bol décoré d'une scène mythologique. Là aussi, l'or, l'argent, on retrouve cette notion de dualité.
Toujours. En fait, à travers les matériaux offerts par la nature, ils vont matérialiser leur conception, leur façon de voir le monde, donc l'or et l'argent. Donc l'or est associé à la sueur du soleil, l'argent aux larmes de la lune, telle une épouse ou une sœur. Et en fait, la rencontre de ces deux métaux va créer quelque chose de nouveau. Ce message-là, c'est un message visuel qui est utilisé lors des rituels, des cérémonies, et qui parle à la population.
Épouse ou sœur, disiez-vous, quelle est la place des femmes dans ces civilisations? Qu'est-ce qu'on en sait?
Aujourd'hui, grâce à l'archéologie, nous savons que les femmes avaient une place importante dans les sociétés, notamment au nord du Pérou, la société Mochica. Plusieurs tombes de femmes ont été retrouvées par les archéologues, des tombes richement construites avec des objets de luxe, des parures, mais aussi des symboles de guerre, comme des grandes massues en bois recouvertes de feuilles d'or. Donc on a retrouvé par exemple la tombe de la Dame de Cao, au nord du Pérou, et cette dame avait des parures qui sont des symboles de pouvoir, coiffe frontale, massue recouverte d'or, mais aussi de pouvoir politique. Mmh. Donc elles avaient une place dans la société, disons, dans l'élite qui gouvernait ces sociétés.
Machu Picchu, le site a été découvert 1911. C'était des civilisations qui n'avaient pas d'écriture?
Non.
Comment a-t-on travaillé pour les découvrir et comprendre leur vision du monde?
Mais c'est justement le travail surtout des archéologues, à travers en fait les vestiges matériels que nous retrouvons.
Oui. Et qu'on retrouve encore en quantité importante aujourd'hui encore.
Oui, au Pérou, il y a beaucoup à faire encore en termes d'archéologie. C'est un pays qui a eu une histoire tellement riche et tellement diversifiée. Les vestiges matériels que vous retrouvez dans les tombes sont nombreux. Il y a de la céramique, il y a des plumes, il y a du textile, il y a des objets en métal, en or, en argent, en cuivre doré. Les tombes sont bien fournies. On part dans la mort, dans le monde, dans l'au-delà, avec toutes ces affaires, tous les objets qui vont identifier le rôle et l'identité du défunt. Pourquoi? Parce que dans cet autre monde, il va devoir acquérir une nouvelle identité qui est celle de l'ancêtre. Et donc ces objets sont extrêmement créatifs, sont extrêmement réalistes. C'est-à-dire qu'on a des céramiques modelées peintes qui vont nous présenter les histoires, c'est des codes visuels, c'est une sorte de communication qui permet de reconnaître certains concepts, ouais, ou certaines visions du monde.
Et pour les pièces les plus exceptionnelles, vous ajoutez dans l'exposition des animations qui permettent d'y avoir accès de manière différente. Il y a un symbole qui arrive dès le début de l'exposition sur une céramique et qu'on retrouve partout, 3 petits degrés. Et ça aussi, ça raconte la vision du monde qu'avaient ces civilisations. Qu'est-ce que c'est que ces 3 petits degrés? Et je me souviens de cette cruche, au-dessus, il y a, comment formuler
une volute.
Une volute, merci, cherchez le mot dans mes notes.
Donc, dans l'ancien Pérou, le monde s'organise en 3 niveaux. Donc, pour les habitants de l'ancien Pérou, le monde d'en haut est habité par les dieux, les forces célestes, hein, la, ouais, pluie, le soleil, le vent, les orages. Et ce monde-là est symbolisé par l'oiseau, qui est cet animal qui a la capacité, la faculté, en fait, d'y accéder. Ensuite, dans le monde d'en bas, vous avez le monde des morts et des ancêtres. C'est-à-dire que les défunts, les morts, vont être enterrés et dans ce monde, ils vont effectuer un voyage où ils vont se transformer en ancêtres. Et ce monde-là, il est symbolisé par le serpent, qui est cet animal qui a la capacité de se faufiler à l'intérieur, dans le monde de dessous.
Et qui est donc valorisé, ce qui n'est pas le cas dans toutes les civilisations.
Qui est valorisé, qui est sacré. L'amaru, d'ailleurs, on l'appelle. Et sur le plan au milieu, entre ces deux plans, il y a le plan terrestre où vivent les hommes et les femmes qui ont leurs activités quotidiennes, qui vont travailler la terre, nettoyer les canaux d'irrigation, et où aussi les rituels et les cérémonies vont avoir lieu de façon cyclique, principalement autour du calendrier agraire, pour pouvoir connecter ces 3 mondes, être en connexion avec les dieux ou les ancêtres.
Et là, l'animal, c'est le félin.
Et là, l'animal, c'est le félin, c'est l'animal le plus puissant du territoire amazonien. Donc, forcément, les leaders, les représentants politico-religieux vont assimiler leur pouvoir à cet animal, ouais, et la volute dont nous parlions, la spirale, qui, ouais, est un symbole que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés anciennes, cette spirale, elle va être permanente, ouais, elle ne s'arrête jamais, elle est constante, et donc elle
la
symbolise
notion de cycle.
La notion de cycle, mmh, qui se renouvelle de façon pérenne.
Et il faut un équilibre permanent. Question d'Elisabeth, est-ce que cette exposition va voyager dans le territoire ou rester à Paris?
Malheureusement, cette exposition va rester à Paris.
Mais ce qui est aussi, il faut qu'on parle des conditions de cette exposition. Il y a des pièces réellement exceptionnelles, oui, évidemment très fragiles, et donc c'est compliqué de les faire voyager.
Alors c'est compliqué de les faire voyager, on a 200 objets, ouais, avec une scénographie assez incroyable, on a des vitrines, des structures en fait associées aux objets, pour créer cette immersion en fait. Et ce qui est important de souligner peut-être ici, c'est que vous avez 50 personnes qui ont travaillé pendant un mois au montage de l'exposition. Donc un démontage et un remontage serait compliqué.
Avec des pièces qui n'avaient jamais voyagé?
La plupart n'ont jamais voyagé. Voilà. 136 objets sont présentés pour la première fois au public français. Mmh. Et 8 objets sortent pour la première fois du Pérou.
Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, beaucoup de ces objets viennent d'une collection particulière.
Oui.
D'un monsieur qui s'appelle Larco.
Oui.
Qui ouvre sa collection au public et aux chercheurs.
La collection du musée Larco, ouais, de Lima, donc c'est une collection privée, mais c'est les objets sont tous enregistrés au ministère de la, ouais, Culture du Pérou, et cela va faire bientôt un siècle que cette collection est visible et offerte au public, c'est-à-dire que le souhait de Rafael Larco Oil était que sa collection, qu'il adorait, qu'il a étudiée, sur laquelle il a beaucoup publié, il l'a donné accès aux chercheurs, mais aussi au public national et international.
Un mot de la partie réalité virtuelle de l'exposition, c'est à la toute fin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir à la toute fin? Et ce qui est intéressant, c'est que vous, la scientifique, vous disiez « j'y étais un peu hostile au début et puis en fait j'ai été embarqué ». Qu'est-ce qui se passe en réalité virtuelle à la fin de l'exposition?
Aujourd'hui, la technologie nous permet d'amener au public un site monumental qu'il serait impossible de déplacer. Et donc le Machu Picchu est littéralement ici aujourd'hui à Paris et accessible à tous. C'est-à-dire que vous allez littéralement visiter le site, vous êtes en immersion dans le site. Ce qui est intéressant, c'est que le site en plus est totalement vide puisque les drones qui ont fait les images incroyables du site ont été faites pendant la pandémie. Donc le site n'avait jamais été fermé. Et donc je recommande sincèrement cette expérience parce que vous allez vivre le Machu Picchu comme si vous y étiez.
Marie, à propos du Machu Picchu, nous dit c'est pas tant la beauté du site qui est incroyable, mais le choc spirituel, dit-elle, ressenti quand on arrive. Et puis, un dernier mot, il y a la statuette de l'oreille cassée, ou quasiment.
Celle que vous connaissez tous, oui. De Tintin. Oui. Oui, en fait, c'est une idole en bois de la culture Chimú qui s'est développée sur la côte nord du Pérou entre 1000 et 1470 après Jésus-Christ. Et donc, ce type d'idole, en fait, accueillait les pèlerins dans la citadelle de Chan Chan.
Vous m'avez piqué le bouquin, du coup j'ai plus le titre en tête, Jean Lebrun. Machu Picchu et les trésors du Pérou, je voulais m'appuyer dessus pour me retrouver le titre. Merci beaucoup Carole Frareso d'être venue dans les studios de France. Ça commence demain.
Demain.
Voilà, demain à la Cité de l'Architecture à Paris. Merci beaucoup.